بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre sixième assise autour de l'étude des fondements de la foi, et en cette nuit du 23 février qui correspond à la nuit du 30 Jumada dernier, en 1441, nous sommes dans le chapitre de la foi en Allah Azza wa Jal. Nous avons vu que Cheikh Rahmatullah Alayhi a composé la foi en Allah Azza wa Jal en quatre points. Et nous avons pris le premier point qui est le fait de croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالشيخ رتب الإيمان بالله عز وجل كما رتبه أهل العلم قبله على أربعة نقاط، أنه يتكون من أربعة نقاط: أولا الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، ثانيا الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، ثالثا الإيمان بألوهيته، ورابعا الإيمان بأسمائه وصفاته عز وجل. ومر معنا البارحة شيء من مر معنا الأمر الأول في الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بوجود الله عز وجل، والآن مع الأمر الثاني ألا وهو الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الإيمان بربوبيته، أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين، والرب من له الخلق والملك والأمر، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا هو، ولا أمر إلا له. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول، كما حصل من فرعون حين قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، لكن ذلك ليس عن عقيدة. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يقول الشيخ: ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية. قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل فلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وقال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وأمر الرب سبحانه وتعالى شامل للأمر الكوني والشرعي، فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته، فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقتضيه حكمته. فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان. Donc, concernant ce deuxième point qui est le fait de croire ou la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi dit: la foi ou la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala consiste à reconnaître qu'il est l'unique seigneur sans aucun associé ni assistant. Le terme seigneur, Rabb, désigne celui à qui appartient la création, la royauté, le commandement. Il n'y a donc d'autre créateur qu'Allah, ni d'autre souverain. Ni d'autres commandements que le sien. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, le commandement n'appartient qu'à Allah. Dans l'autre verset, dans la traduction approximative du sens de ce verset, tel est Allah, votre Seigneur. Tel est Allah, votre Seigneur, à lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possède même pas la pellicule d'un noyau de date. Il dit, rahmatullah alayh, on ne connaît pas une seule créature qui ait nié la seigneurie d'Allah, à moins qu'il ne s'agisse d'un entêté, d'un obstiné qui n'a pas foi en ce qu'il dit. Comme ce fut le cas du Pharaon, lorsqu'il déclara dans le verset dont la traduction approximative nous dit ceci, « Je suis votre Seigneur le Très-Haut ». Et le verset aussi dont la traduction nous dit ceci, où Pharaon a dit, « Ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. » Pourtant, ce qu'il a dit Pharaon n'émane pas d'une conviction. Il dit, car il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, ils nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Et dans l'autre verset, Moussa a dit à Pharaon, dans la traduction approximative du sens du verset, tu sais fort bien que ces choses, c'est-à-dire les miracles et les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur Pharaon, il lui dit, tu sais fort bien que ces choses, ces miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes et claires. Et certes, ô Pharaon, je crois que tu es perdu. Il dit, rahmatullah alayh, pour cette raison, les polythéistes reconnaissaient la seigneurie d'Allah, tout en lui donnant des associés dans l'adoration et dans le culte. Et il cite les versets dont la traduction approximative du sens du premier verset dit ceci, « Dis à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez. » Ils diront à Allah, « Dis, ne vous vous souvenez donc pas. Dis, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime ?» Ils diront, « C'est Allah. » Dis, pourquoi vous préservez pas ces droits? Dis, qui tient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? Dites si vous savez, ils diront, c'est Allah. Comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés? Donc au point de ne pas l'adorer exclusivement et de ne pas lui réserver le culte. Et dans l'autre verset qu'il a cité, rahimahullah ta'ala, dans la traduction approximative du sens du verset, il est dit, « Et si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre ?» Ils diront très certainement, « Le puissant, l'omniscient les a créés. » Dans l'autre verset, dans sa traduction approximative du sens, « Et si tu leur demandes, qui les a créés ?» Ils diront très certainement, « C'est Allah. » Comment se fait-il qu'il se détourne? C'est-à-dire, comment se fait-il qu'il se détourne de son adoration? Il dit, rahmatullah alayh, concernant les ordres d'Allah, l'ordre d'Allah a une dimension générale qui englobe le domaine matériel, c'est-à-dire tout ce qui est décrété dans cet univers, qui englobe le domaine matériel mondain et le domaine aussi législatif et religieux. Ainsi, de la même façon qu'il organise, subhanahu wa ta'ala, tout l'univers, il le gère, subhanahu wa ta'ala, et il décide ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, selon ce que ça implique, sa sagesse et sa perfection. C'est également lui qui est le Seigneur, le juge, qui légifère les actes d'adoration et les règles de transaction selon ce qu'implique sa sagesse et sa perfection, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, rahmatullah alayh, en conséquence, celui qui reconnaît un législateur autre qu'Allah concernant les adorations ou un juge autre qu'Allah dans les transactions, celui-là a donné un associé à Allah et il n'a pas accompli la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. يقول رحمه الله الأمر الثالث الإيمان بألوهيته أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال رحمه الله وكل ما اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطلة. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال رحمه الله: وتسميتها إلى آلهة لا يعطيها حق الألوهية. قال الله تعالى في اللات والعزى ومنات: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال عن هود أنه قال لقومه: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن: أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا قال الشيخ: ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ويستنصرون بهم ويستغيثون بهم. إيه رحمة الله عليكم سيغنو التخوزيام بوان كو كونتيان لفوان الله سبحانه وتعالى كي لفوان لديفينيتي دالله ألوهية الله. Il dit « Cela signifie que c'est lui seul à qui il faut réserver le culte sans associer, sans lui faire d'associer. L'ilah, c'est celui qui s'adore avec amour et vénération. Et donc le culte doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. » Et il est dit dans le verset qu'il a cité, rahimahullah ta'ala, dans la traduction approximative du sens, nous dit ceci: et votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui, c'est-à-dire à part Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et dans l'autre verset, il est dit dans la traduction approximative du sens de ce verset: Allah atteste, ainsi que les anges et les savants, que nul n'est digne d'être adoré que lui, le mainteneur de la justice. Aucun ne mérite d'adoration excepté lui, le puissant, qui fait les choses à la perfection. Et rahimahullah, il dit: attribuer la divinité à autre qu'Allah, c'est une erreur et un mensonge. C'est une énorme erreur et un grand mensonge. Il cite le verset dont la traduction approximative nous dit ceci: c'est ainsi Allah, il est la vérité, alors que ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est le faux. C'est Allah le plus grand et le plus haut. Il dit, rahmatullah alayh, le fait de nommer ceux qui s'adorent en dehors d'Allah des divinités, cela ne leur confère pas ce statut. Il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset concernant Lat ou Al-Uzza ou Manat, qui étaient des divinités adorées par les Arabes à l'époque de la période pré-islamique. Il est dit dans le verset, dans sa traduction approximative du sens du verset: ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet et le concernant. Et il est dit dans le verset concernant Houd alayhi salatu salam, que Houd a dit à son peuple dans ce verset, dans la traduction approximative du sens du verset: allez-vous polémiquer avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez donné sans qu'Allah y fasse descendre la moindre preuve. Et il est dit dans l'autre verset, dans Surat Yusuf, hein, dans la traduction approximative du sens du sens de ce verset, quand Yusuf demanda à ses deux compagnons de prison, il est dit: qui est le meilleur des seigneurs? Qui est le meilleur des seigneurs éparpillés ou Allah, l'unique, le dominateur suprême? Le dominateur suprême, vous n'adorez en dehors d'Allah, vous n'adorez en dehors d'Allah que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, pour qui Allah n'a descendu aucune preuve. Et il dit, rahmatullah alayh, c'est pour ça et pour cette raison que les messagers alayhimus salatu salam disaient à leur peuple: adorez Allah, vous n'avez d'autre digne d'être adoré qu'Allah. Il dit, rahmatullah alayh, les polythéistes refusèrent cette vérité et refusèrent de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. et adoptèrent en dehors d'Allah des divinités qu'ils adoraient avec Allah. Ils leur demandaient l'assistance et le secours. Ils leur demandaient des choses que ne peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول رحمه الله وقد ابتلى الله اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين. الأول أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، فهي مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا لعابديها ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه. قال الله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه وأبطل الباطل. والثاني أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إلدي رحمة الله عليه الله أنيلي et réfuter le fait que les polythéistes adoptent des divinités en dehors d'Allah par deux arguments rationnels. Le premier argument, ces prétendues divinités ne présentaient aucune caractéristique divine. En effet, ils sont créés, ils ne créent rien, ils ne procurent aucun avantage à leurs adorateurs, ils ne les protègent pas du mal, ils ne possèdent ni la vie ni la mort, ils n'ont aucune part dans les cieux, ils ne participe pas à l'administration de ce monde et de cet univers. Il cite le verset rahimahullah ta'ala, dont la traduction approximative nous dit ceci, mais ils ont adopté en dehors d'Allah des divinités qui sont des créatures, qui ne créent rien et qui ne peuvent ni faire du mal, ni prodiguer un bien pour elles-mêmes, et qui ne possèdent ni la vie, ni la mort, ni la résurrection. Et il y dit dans l'autre verset, dans la traduction approximative du sens, nous dit ceci, dit, invoquez ceux que vous prétendiez être des divinités en dehors d'Allah, ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux, ni sur la terre, ils n'ont pas été associés à leur création, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a personne comme soutien. L'intercession auprès d'Allah ne profite qu'à celui en faveur duquel il l'a permis subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre verset, dans la traduction approximative, il est dit ceci, ceux que vous avez pris comme associés, comment peuvent-ils agir comme associés à Allah alors qu'ils ne peuvent rien créer et eux-mêmes sont créés et ils ne peuvent ni vous secourir ni se secourir eux-mêmes. Il dit rahmatullah alayh, Donc c'est telle est la réalité de ces prétendues divinités, les prendre comme des divinités fait partie des pires sottises et des pires vanités. Il dit le deuxième argument rationnel, les polythéistes reconnaissaient que c'est seul Allah, le Seigneur, le Créateur, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses. C'est lui qui protège, il n'a pas besoin d'être protégé. Cela implique qu'ils doivent le reconnaître comme étant le seul digne d'être adoré, de la même manière qu'ils ont reconnu qu'il est l'unique Seigneur. Et il dit, rahmatullah alayh, il dit dans le verset, il cite le verset, où il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, « Ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi vous allez atteindre la piété. C'est lui qui vous a stabilisé la terre comme lit et le ciel comme toit et qui précipite la pluie du ciel par laquelle il fait surgir toutes sortes de fruits pour vous. Ne lui donnez aucun équivalent alors que vous saviez tout cela. » Et il a cité un autre verset, rahimahullah ta'ala, dont la traduction approximative nous dit ceci, « Dit, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre ? Qui détient, lui, et l'a vu, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant ? Et qui administre tout ? Ils diront à Allah, alors, pourquoi ne préservez-vous pas ses droits ? Tel est les votre Seigneur, tel est Allah votre Seigneur, au-delà de la vérité, qui est-il donc sinon l'égarement? Au-delà de la vérité, qui est-il donc sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner? Donc, ici, Cheikh Rahmatullah Aleyh a cité tout cela pour prouver que le culte doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on médite les versets qu'a cité Cheikh ici, qu'on médite la situation de stupidité et d'injustice dans laquelle se trouvent les associateurs en tout temps et en tout lieu, hein, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, on se rend compte de cette situation de stupidité dans laquelle ils se retrouvent et dans cette situation d'injustice. Regarde comment ils reconnaissent la souveraineté, la seigneurie d'Allah, et comme quoi Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul créateur. Et comment ils inventent, pourquoi ils arrivent à inventer des divinités, hein, et inventer des noms pour ces divinités, et méditent. Comment Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, anéantit l'adoration qu'il voue à ces prétendues divinités, qui ne peuvent rien pour eux-mêmes. Alors comment ils peuvent-ils quelque chose pour les autres? Le polythéisme est une seule voie. Peu importe le lieu et le temps. S'il a plusieurs facettes, mais c'est une seule voie. Hein? Avant, c'était les statues. Hein? Et autres, les pierres, les arbres, etc. Les anges et autres, les gènes aussi. Hein? Aujourd'hui, ce sont les mausolées. Ce sont les tombes. Hein? Soi-disant, hein, les mausolées de saints et ainsi de suite. Il y a aussi l'adoration des sources se fait encore de nos jours. Des actes sont voués au feu de nos jours. Des actes sont voués à certaines pierres de nos jours, en Afrique du Nord et ailleurs. Hein? Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. ونأتي إلى الأمر الرابع d'où l'importance de s'occuper du monothéisme, d'où l'importance de étudier le monothéisme et de le faire propager au milieu de la communauté. Combien de gens accomplissent la prière, ils sont dans l'associationnisme, ils croient dans les devins, ils croient dans les sorciers. Ils accrochent, ils sont attachés à des amulettes. Hein? Ils croient. Hein? Ils ont peur d'une peur qui doit être réservée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, dit jinn et ainsi de suite. Et tout ceci, ce sont des annulatifs du monothéisme. D'où l'importance que donnent les hommes de science à la da'wah au monothéisme. Et que toute da'wah qui n'est pas basée sur le monothéisme, va vers sa perte, n'amène nulle part. Hein? Et la réalité de la communauté, elle est là. Regarde, on veut libérer la Palestine, on veut faire ceci, cela, et les tombes qui s'adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment on peut y arriver? Comment on peut arriver à libérer, hein? On ne sait pas libérer nous-mêmes de nos passions. Hein? Certains ne se sont pas libérés du culte qu'ils voient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils veulent libérer la Palestine, ou la libérer ailleurs. Abadan akhal islam. Hein? On ne s'est pas libéré de nos passions pour se soumettre. Comment il se doit Allah subhanahu wa ta'ala? Et pour être conforme à sa sunna et à ses ordres, et on veut libérer. Abadan akhal islam. Les nobles compagnons ont libéré et ont conquis les grandes puissances de leur époque, comme la Perse et les Romains, parce qu'ils se sont soumis comme ils veulent Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on est au plus bas de l'échelle. On est déshonoré actuellement. Pourquoi? Parce que il y a du culte qui est donné, qui est voué à autre Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup qui sont négligents au niveau de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut d'eux. Et même qui s'opposent à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut d'eux et à la sunna de leur messager alayhi salatu wassalam. Et quand il lui parle de la sunna, c'est comme si tu descends du Jupiter. Tu viens, tu ramènes quelque chose de nouveau. Alors que c'est ce que veut de lui Allah subhanahu wa ta'ala. Lui obéir et obéir à son messager alayhi salatu wassalam. يقول رحمه الله والأمر الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه الذي لائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذلوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et donc on passe au quatrième point qui est contenu dans la foi en Allah Azza wa Jal, qui est la foi en les noms et les attributs d'Allah. Et ce point consiste à reconnaître les noms et les attributs d'Allah. Les noms et les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné lui-même dans son livre et ceux que son messager alayhi salatu wassalam lui a confirmé dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Reconnaître ses noms, reconnaître ses attributs comme il sied à sa majesté subhanahu wa ta'ala, sans les modifier, sans les nier, sans les dépouiller de leur sens, sans les expliquer leurs modalités, leurs comment, et sans chercher leurs comment. Ils sont les comparés aux attributs de ces créatures, hein? Il est dit dans les versets qu'il a cités, rahimahullah ta'ala, dans la traduction approximative du sens du verset, c'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms, et laissez ceux qui profanent ses noms, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Et dans l'autre verset, il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset, il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre. C'est lui le Tout-Puissant qui fait les choses à la perfection. Et dans l'autre verset, dans la traduction approximative du sens du verset, il n'y a rien qui lui ressemble. Et c'est lui le Dieu, le clairvoyant. يقول رحمه الله وقد ضل في هذا الأمر طائفتان إحداهما المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات وبعضها زاعمين أن إثباتها لله يستلزم التشبيه أي تشبيه الله تعالى بخلقه وهذا الزعم باطل لوجوه منها الأول أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه وتعالى وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضا الأمر الثاني أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان سميع بصير متكلم ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام وترى الحيوانات لها أيد وأرجل وأعين، ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء أو صفات، فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. في هذه الفقرة يبين الشيخ الفرقتين التي ظلت في أسماء الله وصفاته، وهي فرق موجودة معنا إلى يوم الناس هذا. لك أن ترى عند الأحباش كيف يؤولون صفات الله عز وجل، صفة النزول، صفة الاستواء، كل شيء من صفات الله يؤولونه. والأشاعرة في مشارق الأرض ومغاربها كذلك ينفون كثيرا من الصفات، والماتريدية لا يعترفون إلا بثمان صفات، والأشاعرة بسبع. وهؤلاء موجودون معنا اليوم على وجه الأرض موجودون. فلا concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh il dit deux groupes se sont égarés à ce niveau-là. Il ne faut pas croire que ces groupes n'existent pas. Ils existent avec toi maintenant. Tu as l'Asha'ira, tu as le Maturidiya. L'Asha'ira, il est dit que ce sont eux, cette croyance. L'Asha'ira, ce sont les musulmans qui ont la majorité dans la communauté. Le Maturidiya existe dans toute la partie, dans toute l'Asie. L'Asha'ira reconnaît cet attribut à Allah. Et le Maturidiya rajoute un de plus qui est le huitième. Et tu as l'Ahbash avec toi, même ici en Europe, qui dépouille le sens des attributs d'Allah, azzawajal, que ce soit la descente d'Allah, que ce soit l'établissement, l'istiwa, l'établissement sur le trône, subhanahu wa ta'ala, etc. Et tu vois aussi, dans la tendance des ikhwans, ceux qui délèguent les sens des attributs d'Allah, alors que les sens sont connus dans la langue arabe. Ce qui doit être délégué, c'est les modalités des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le fondateur de la secte des Rouen, il délègue le sens. Il délègue le sens de l'attribut. Et tout ceci existe dans la communauté. Concernant les noms et les attributs d'Allah, deux groupes se sont égarés à ce niveau. Le premier groupe, le Mu'attila, qui ont nié les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs. Totalement ou en partie. Ils ont rejeté une partie ou l'a totalement, complètement. Et qu'est-ce qu'ils veulent par cela? Ils prétendent que le fait de les reconnaître et de les attribuer à Allah entraîne l'assimilation. C'est-à-dire que le fait de reconnaître les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné, c'est de l'assimilation, c'est le fait d'assimiler Allah subhanahu wa ta'ala avec ses créatures. Et cette prétention est bien entendu fausse. Pour plusieurs raisons. Allah ne ressemble pas à ses créatures. Et Allah s'est donné des attributs. La première des raisons pour annuler cette prétention fausse, ça entraîne des conclusions non recevables, comme le fait d'évoquer une contradiction dans la parole d'Allah, Azza wa Jal. Car Allah s'est attribué des noms et des attributs et a rejeté toute ressemblance avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit. Donc, si la reconnaissance de ses noms et de ses attributs entraînait l'assimilation avec ses créatures, cela voudrait dire qu'il y a contradiction dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que certaines des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont démentées par d'autres. L'iyadan billah. Voilà où ça amène. Ça amène d'avoir des confusions et d'avoir et de faire croire qu'il y a des contradictions dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il n'y a aucune contradiction dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième raison pour annuler ces prétentions fausses, le fait que deux choses aient des noms identiques ou des attributs identiques ne veut pas dire qu'ils sont égaux ou qu'ils sont à pied d'égalité ou ils sont égales à Badel. Vous voyez par exemple deux individus, chacun d'eux entend, chacun d'eux voit et parle. Cela n'implique pas qu'ils soient identiques sur les valeurs humaines de lui, de la vue, et sur les valeurs humaines et sur la vue, et sur lui, et
sur la parole, la façon de parler, etc. Abadan.
Voyez des animaux qui ont quatre membres et des yeux. Et le fait qu'ils aient tout cela n'implique pas que leurs membres et leurs yeux soient identiques. Abadan. La fourmi a des yeux. L'éléphant aussi. Ils sont identiques. Abadan. L'âne en a. L'être humain en a aussi. Ils sont identiques. Abadan. Hein? Donc, si cette disparité apparaît parmi les créatures en ce qui concerne les noms et les attributs qu'ils ont en commun, la dissemblance entre le créateur et la créature est encore plus évidente et plus importante.
Wa ta'ifatu thaniya allati inharafat fi hadha al-bab al-mushabbiha الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص لأن الله تعالى يزعمون أن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها الوجه الأول أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل والشرع ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا أبدا الأمر الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى اليد معناها ماذا الاستواء معناه ماذا استوى على ارتفع هاي ها أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى أما الحقيقة والكون الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وأسمائه بذاته وصفاته أما المعنى الحقيقي وكيف صفات الله وكيف ذاته هذا لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى أما معنى الوجه فمعروف الوجه في اللغة اليد الله سبحانه وتعالى قال أنه لا يد معروف أنه اليد ما معناها في اللغة والوجه ما هو في اللغة قضية النزول صفة النزول النزول معروف في اللغة لكن كيف ينزل الرب كيف استوى الرب كيف وجه الرب هذا لا يعلمه أحد وممنوع عنا أن نسأل عنه كذلك يمنع عنك أن تسأل كيف وجه الله وكيف استوى الله كل هذا ممنوع ها فإذا يقول الشيخ رحمه الله فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع فإن السمع معلوم محيط أصل المعنى وهو إدراك الأصوات لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم إذن عندما يثبت الله سبحانه وتعالى السمع لنفسه السمع معلوم عندك أنه إدراك الصوت لكن هل سمع الله كسمع البشر أبدا لك أن تتأمل قصة التي جاءت تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى عند الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها ها عائشة في البيت في نفس الغرفة والغرفة صغيرة وما سمعت كثيرا من كلام المشتكية المجادلة عن زوجها ها وسمعها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ها؟ وعائشة في البيت تقول كثير من الكلام لم أسمعه وهي في البيت جالسة في نفس الغرفة ها؟ وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الاستواء من حيث أصل المعنى معلوم لكن حقيقة الاستواء التي هو عليه غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله على عرشه كيف؟ لا يعلمه أحد إلا الله لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق فليس الاستواء على كرسي مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب النفور فإذا تباينت في حق المخلوق فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم كذلك فيما يخص الاستواء ها؟ استواء الله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى ها؟ واستواء الإنسان يستوي على الكرسي كما يستوي على ظهر حصان لم يدرب بعد أو جمل لم يدرب بعد، فكيف سيكون استواءه على ذلك الجمل الذي لم ينقد لصاحبه؟ لا بد أنه سيحركه في كل شيء حتى يسقطه من على ظهره، وهذا الذي مستوي على الكرسي جالس مستقر، فهنا فيه تباين بين الاستواء بين المخلوق، فكيف استواء الله عز وجل؟ لا شك أن الفرق شاسع ولا يمكن، فالله سبحانه وتعالى استواءه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إذنك لدوزيام غروب كي سسون إيغاري على سو نيفو لا سي المشبهة، ce qu'on appelle en français les anthropomorphistes, ceux qui donnent corps à Allah subhanahu wa ta'ala et qui le ressemblent assez à ses créatures. Ceux-là reconnaissent les noms et les attributs d'Allah, mais en établissant une similitude entre Allah et ses créatures. Ils font la ressemblance entre Allah et ses créatures en prétendant que c'est ce qui est prouvé et contenu dans les textes de la révélation. Ils disent qu'Allah s'est adressé aux humains avec un langage qu'ils comprennent. Cette affirmation est bien entendu fausse et non recevable par plusieurs raisons. Parmi ces raisons, premièrement, concevoir qu'Allah ressemble à ses créatures est une attitude qui rejette la raison et la législation d'Allah. Impossible de déduire des textes du Coran et de la Sunna une attitude aussi irrecevable que celle-ci, comme quoi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ressemblent aux attributs de ses créatures. La deuxième raison, Allah s'est adressé à ses serviteurs en utilisant un langage dont ils connaissent et comprennent le sens littéral, c'est-à-dire le sens au niveau de la langue, au niveau linguistique. Quant à la réalité de son être subhanahu wa ta'ala et de la modalité de ses attributs, le comment de ses attributs, cela fait partie de la science invisible que Allah subhanahu wa ta'ala s'est gardé pour lui-même ou que personne ne connaît. Donc lorsque Allah par exemple affirme qu'il entend, on sait ce qui est l'audition au niveau de la langue. C'est la perception des sons. Quand il est dit dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a des mains, on sait ce que ça veut dire la main au niveau de la langue. Mais comment il a la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas. Et il ne nous est pas permis de poser la question comment il a la main d'Allah. C'est aussi interdit. Nous ne devons pas immiscer notre raison là où il ne faut pas. On est limité. On est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Et donc, lui d'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à lui de l'être humain. Et tu prends pour exemple celle qui est venue se plaindre de son mari. Il est venu, la pièce de Aïcha, c'est une petite pièce. Aïcha était assise à côté. Et la femme se plaignit de son mari. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu en Coran qui se lira jusqu'à la fin des temps. Allah a entendu celle qui est venue se plaindre de son mari. Aïcha, il dit, moi je suis là à côté d'eux, pas loin d'eux, il y a des choses que je n'ai pas entendues, et Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de son trône géant, il l'a entendu, et il a descendu ce Coran, cette sourate qui se récitera jusqu'à la fin des temps. Regarde combien la différence qu'il y a entre lui de l'être humain, qui sied à la faiblesse de l'être humain, et lui d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sied à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune comparaison. C'est impossible. Mais on ne peut pas cerner l'essence de l'audition d'Allah subhanahu wa ta'ala. En sachant que l'audition varie, même entre les créatures. Donc la différence entre le créateur et les créatures est encore plus manifeste et plus évidente. Lorsqu'Allah annonce qu'il s'est établi au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala, là encore, on sait ce que ça veut dire au niveau de la langue arabe. Être en hauteur, être au-dessus. Hein? Être élevé au-dessus, s'établir au-dessus. Voilà ce que ça veut dire l'istiwa en langue arabe. Hein? L'établissement au-dessus. Mais en ce qui concerne la réalité de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça personne ne le sait. Hein? Toutefois, l'établissement d'Allah sur le trône, sa modalité n'est connue de personne. Il s'y établit comme il sied à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. L'établissement d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas identique à l'établissement des créatures, abadan. Et déjà, il y a une différence entre l'établissement des créatures, une différence, hein, de l'établissement des créatures entre elles. Qu'est-ce qu'il en est de la grande différence qu'il y a entre l'établissement d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de ses créatures? Regarde, s'asseoir sur une chaise stable n'est pas identique au fait de s'installer sur le dos d'un dromadaire farouche qui n'est pas encore dressé. Quand tu es sur un dromadaire ou un cheval qui n'est pas dressé, regarde comment il bouge et comment il te fait sauter dans tous les sens. Tu risques même de tomber et de te fracasser. C'est pas la même chose que être établi sur une chaise stable. Hein? Et donc, la différence constatée à ce niveau voit plus forte raison quand il s'agit des créateurs, pas du créateur par rapport à la créature. La différence est encore plus énorme et plus grande. Hein? Et on va s'attarder un petit peu sur ce sujet qui est le sujet des noms et des attributs parce que c'est un sujet très important. Voyons maintenant ce qui nie les noms et les attributs d'Allah, ou certains noms, certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur but, leur prétendu but, c'est d'exempter Allah subhanahu wa ta'ala de toute diminution et de tout défaut. Les hommes de science disent que le mu'attil, celui qui nie, hein, les attributs d'Allah, c'est un anthropomorphiste avant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui donne des similaires déjà à Allah. Hein? Il donne des similaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout mu'attil, c'est-à-dire tout un chacun qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est mushabbih, il est anthropomorphiste à la base. Car dans son esprit, quand il entend un attribut d'Allah, il y a une lacune dans la conception de l'attribut d'Allah. Il a un problème, hein, très grave au niveau de la conception de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc quand il est en face d'un texte qui contient l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant cette lacune dans la conception de l'attribut d'Allah, il s'imagine ce qui ne sied pas Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il entend la main, il s'imagine la main de la créature. Donc c'est une mauvaise conception dans son esprit. Hein? Il s'imagine au niveau de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne sied pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et il veut se sauver du fait de donner des similaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut se sauver de l'anthropomorphisme ou de l'assimilation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il tombe dans une situation qui est pire, qui est tatil, qui est la négation des attributs. Comme quelqu'un qui se sauve de la cendre, il tombe dans le feu. C'est la même chose. Il s'est sauvé de quelque chose pour tomber dans pire. Hein? Et tout ceci à cause de cette lacune qu'il a dans la conception de quand il entend l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour lui, confirmer l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il est annoncé, c'est lui faire un similaire. Hein? C'est lui trouver tout de suite quelque chose. Hein? Il le compare à la créature. Il compare l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature subhanahu wa ta'ala. Et notre messager alayhi salatu wa salam attribués à Allah subhanahu wa ta'ala, des attributs et des noms, nous devons les confirmer pour Allah comme il sied à sa grandeur subhanahu wa ta'ala, comme il sied à sa majesté, tout en connaissant la signification de ces attributs en langue arabe. La signification en langue arabe, il est là, il est en face de nous, on la connaît. L'Iyad, l'Istiwa, tout ça on sait ce que c'est. Rahma, l'Ilm, tout ça on sait ce que c'est. Hein? Mais il ne faut pas chercher la réalité de leur comment, la réalité de la modalité de cet attribut. Et il ne faut pas dépouiller non plus les sens des attributs, ni déformer les sens. Par exemple, pour se sauver, hein, certains disent Istawa, il change la lettre, Istawla, il a mis la main dessus. Au lieu de reconnaître l'établissement, Istawa, maître, hein, Istawla. Comme Istawla, ça veut dire que il n'avait pas le trône et qu'il s'est disputé avec quelqu'un d'autre pour l'avoir après. A'oudhu billah. C'est ça, l'istila. C'est quelque chose que tu n'as pas et tu combats pour l'avoir. Et ceci est très dangereux. Hein? Alors que l'istiwa, c'est l'élévation. Ce n'est pas combattre pour avoir une chose et mettre la main et s'accaparer d'une chose. Abadan. Donc, la signification, nous devons la garder telle qu'il est dans la langue des Arabes. Tel qu'il est dans la langue du Coran et de la Sunna. Tel qu'il est dans la langue de Muhammad alayhi salam. Hein? Et nous ne devons pas déformer les sens. Hein? Et attribuer les sens à Allah subhanahu wa ta'ala comme il sied à sa grandeur. Hein? Donc la signification des attributs est connue et confirmée. Car Allah azza wa jal s'est adressé à son messager avec une langue que le messager comprend. Le messager s'est adressé aux Arabes avec une langue que les Arabes comprenaient. Les compagnons, quand ils ont compris les textes, dans leur langue et dans leur contexte, ils ne sont pas tombés dans ce qui est interdit concernant les noms et les attributs d'Allah. Ils ne sont pas tombés ni dans la recherche des modalités des attributs d'Allah, ni dans la modification de leur sens, ni dans la négation des attributs, ni dans le dépouillement des sens des attributs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Ils ont compris le sens, ils l'ont pris tel quel, ils ont reconnu l'attribut à Allah subhanahu wa ta'ala comme il sied à sa grandeur et comme il sied à sa majesté. Les compagnons maîtrisaient la langue arabe, ridwanullah alayhim. La langue arabe, c'était leur nature. Rien n'a été confus pour eux concernant les noms et les attributs d'Allah. Comme ceux, rien n'a été confus pour eux comme ceux qui modifient les sens ou qui dépouillent les attributs de leur vrai sens ou qui délèguent le sens. Même le sens de la langue arabe, ils le délèguent, l'aidan billah. Ils délèguent la signification des sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceci est très dangereux. Alors que ce qui doit être délégué à Allah, c'est les modalités et le comment de ces attributs. Le sens ne se délègue pas. Le sens, on le connaît dans la langue du Coran et dans la langue de la Sunna. Ce qui se délègue, c'est le comment de cet attribut. C'est là où il ne faut pas chercher. C'est là où il faut, c'est un domaine réservé à Allah. Il faut le laisser pour Allah, Azza wa Jal. Hein? Ils ne croient pas que je parle de tendances qui sont à Jupiter. Ils t'entourent. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'Ahbash, le Maturidiya, l'Asha'ira, le Mu'tazila, ils sont avec toi. Partout dans le monde du musulman. Et ils sont partout avec toi en Europe aussi. Va voir les centres d'Yal Ahbash. À Paris, à Lyon, à Bruxelles, etc. Va voir les centres d'Yal Maturidiya en Angleterre, combien ils sont. Et ainsi de suite. Il ne faut pas croire qu'on est en train de parler quelque chose qui, des gens qui vivent à quelque part dans une autre planète ou que là qui sont terminés, qui n'existent plus. Abadana khal islam. Les compagnons, quand ils ont entendu Ar-Rahman ou Al-Arshistawa, le clément s'est établi au-dessus de son trône, comme il sait à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas posé la question, comment il s'est établi, subhanahu wa ta'ala, et pourquoi il s'est établi. Ces questions-là, ils ne les ont pas posées, ni comment, ni pourquoi, radwanullahi alayhi. Mais ils ont compris la signification du texte, et en même temps, ils ont exempté Allah de tout ce qui ne sied pas à sa grandeur. Ils ont reconnu l'attribut d'Allah, comme il sied à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Ah, ils ont exempté Allah, subhanahu wa ta'ala, de tout ce qui, de toute similitude, et de toute chose diminutive. Ah. En mettant en application quoi? La règle, ils l'apprennent du Coran, de la parole d'Allah. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Ah, Allah il a dit qu'il est sami, qu'il est basir. خلاص, tu vas nier ça? Tu vas le déformer? Et il a dit en même temps, ليس كمثله شيء. أي لا تتصور أن سمع الله كسمع البشر أو نظر الله كنظر البشر أبدا. ليس كمثله. فأخذوا القاعدة. Les nobles compagnons ont entendu les attributs. Ils les ont mis en application conformément à la règle donnée dans le Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Dans le Coran. Le verset, il dit ceci dans sa traduction approximative du sens. Rien ne lui ressemble. Donc, cherche pas à faire des ressemblants à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est confirme. Et il est celui qui entend et celui qui voit. Donc, tu dois confirmer. Et lui, il a vu Allah. Tout en, tu lui cherches pas de ressemblant. Tu lui cherches pas de similitude chez ses créatures. Tu ne cherches pas comment il a vu, comment il est lui d'Allah, Azza wa Jalla. La parole d'Allah, il te règle. Khlas, tu t'arrêtes là, ou t'arrêtes la parole d'Allah. Hein? Il s'est attribué, subhanahu wa ta'ala, lui, il a vu, tout en interdisant le fait de le faire ressembler à qui que ce soit et à quoi que ce soit, subhanahu wa ta'ala. Et quand les nobles compagnons ont entendu qu'Allah azza wa jal descend le dernier tiers de la nuit, ils n'ont pas disserté là-dessus. Indama sami'a as-sahaba anna Allah azza wa jal yanzilu fi thuluth al-akhir min al-layl. Lam yaqulu kayfa yanzil wa thuluth al-akhir fi hadhihi al-bilad. ليس كالثلث الأخير هناك إذا كان الثلث الأخير هنا فيكون في هذا الوقت وادلغ. هذا يدل على أن عرشه خاو فارغ دائما لأن الثلث في هذه البلاد ليس الثلث في هنا وكذا وهذا كلام فارغ عالم الله لا يدركه إلا الله ولا يعرف كنها إلا الله سبحانه وتعالى فالعقل محدود فالصحابة لم يتدخلوا في هذا الأمر ولم يسألوا هذه الأسئلة فارتاحوا وأراحوا رضي الله عنهم وأرضاهم طمأنوا وطمأنوا كذلك بتعليمهم من بعدهم ما يجب أن يكون عليه الإنسان في باب أسماء الله وصفاته عز وجل. Et donc, et quand les nobles compagnons ont entendu qu'Allah عز وجل descend le dernier tiers de la nuit, ils n'ont pas disserté là-dessus, comme l'ont fait ceux de l'école de la scolastique. L'ayadan billah. Écoute leur délire. S'il descend de son trône va être vide. Et le tiers de la nuit, ici, ce n'est pas le dernier tiers de la nuit là-bas, de l'autre côté de la planète. Et cela veut dire que son trône est toujours vide. Et cela veut dire qu'il est toujours en descente. L'ayadan billah. Qui t'a dit d'aller chercher tout cela? D'où tu le tiens? Ni du livre d'Allah, ni de la sunna de son prophète, alayhi wa sallam. Les compagnons ont entendu la descente, khlas, ils y ont cru. Comme il s'y a sa grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de chercher dans quelque chose où ta raison ne peut pas s'immiscer. Notre raison, il est limitée. Il y a des lignes rouges. Surtout en ce qui concerne Allah, azza wa jal. Nous ne devons pas dépasser. Et surtout concernant les attributs d'Allah. Sinon, on va s'égarer, comme se sont égarés ceux de l'école de la scolastique. Et ces délires qui n'en finissent pas n'ont pas effleuré l'esprit des nobles compagnons, ni de ceux qui ont été éduqués par les nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. Hein? ils ont été apaisés et ils ont apaisé ceux qui les ont suivis, radiyallahu anhum wa ardahum. Hein? En mettant quoi en règle? Yanzil. Kaif? Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Hein? Mettons en application, Allah descend. Mais rien ne lui ressemble. Il descend comme il sied à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Regarde qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, te préserve. Quand le messager d'Allah a dit, عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا يضحك قال الأعرابي البدوي لم يتخرج لا من السربون ولا عنده بك زائد ثلاثة ولا أربعة إذن إذا كان لا يأتينا إلا الخير من رب يضحك ما بحث كيف يضحك ولماذا يضحك ها قال الأعرابي إذن لا يأتينا إلا الخير من رب يضحك ميتيت سبيدوان Il n'est pas sorti de la Sorbonne. Ni il n'a bac plus 2, ni bac moins 2, ni plus 5. Rien de tout cela. Il n'a pas étudié dans l'école de la scolastique. Hein? Il a entendu, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah sourit, Allah rit. Il a dit, donc, il n'y a que le bien qui va nous venir d'un souverain qui rit. Il n'a pas cherché comment il rit et pourquoi il rit. Hein? Les compagnons n'avaient aucune confusion sur un attribut d'Allah. Abadan, ils n'ont eu aucune confusion sur l'attribut d'Allah, Azzawajal. Aucun. Ce sont des Arabes qui comprennent l'arabe de la meilleure façon. Et regarde, ils n'ont pas émissé leur raison là où il ne faut pas. Ils ne l'ont pas émissé dans ceux qui dépassent. Ils n'ont pas émissé la raison dans ce qui dépasse ses limites. Hein? Ils ont compris le texte dans son contexte, ils ont confirmé l'attribut d'Allah Azza wa Jal, ils se sont apaisés, ils ont apaisé ceux qui les ont suivis et ceux à qui ils ont transmis la religion d'Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas disserté comme le font les gens de la scolastique. Le rire, c'est manifester un sentiment de gaieté par les lèvres. Et comment ça se fait? Et comment c'est fait? Et c'est impossible? Et kada? Et ça vient de sentiments? Et ainsi de suite? Et ceci ressemble à l'humain? Donc il faut pas le reconnaître à l'heure. Et où tu vas? Qui t'a dit de chercher tout cela? Où tu vas avec ta dissertation? Où tu vas avec ta philosophie? Tu t'arrêtes là où il t'arrête. Où t'as arrêté la parole d'Allah et la parole de son prophète, alayhi salatu salam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah rit, donc Allah il rit. Khlas, comme il sied à sa grandeur. Rabbuna yadhak, yadhak. كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى هكذا علمنا القرآن هكذا جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتراف بالأسماء والصفات بدون تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم فنقف عند هذا الحد إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا